Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, on va ouvrir, nous allons ouvrir une page de notre Bible dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Luc, au chapitre 6. Notre lecture sera très courte, mais nous allons aborder un sujet particulier que nous allons découvrir. Alors, Évangile de Luc, chapitre 6 et verset 18. Alors voilà ce que nous avons devant les yeux. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Le sujet que nous allons considérer ce soir, c'est le problème des tourments. Alors, je pense que nous abordons un sujet tout à fait vaste, parce que ça fait partie quand même de, malheureusement, de la condition des hommes d'être petitement ou grandement tourmentés. Alors naturellement, il y a toute une évaluation, et de savoir sur quoi le sujet porte, parce que il peut y avoir des tourments d'ordre physique, il peut y avoir également des tourments d'ordre psychologique ou moraux, et puis également spirituel. Écoutez bien, il nous est dit que la foule venait pour l'entendre, pour être guérie de leur maladie, c'est le verset précédent, et ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Alors, bien naturellement, il y a une petite nuance, une classification à faire. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que nombre de gens, hier et aujourd'hui, éprouve parfois un malaise intérieur. C'est pas quelque chose que l'on dit aisément, mais il est question d'un malaise intérieur dont la provenance dépasse leur raison. Ils sont pas bien, ils s'interrogent, ils se disent « mais pourquoi ?» Ça ne va pas. Alors parfois il y a des explications et c'est relativement simple d'en trouver les raisons, les causes. Mais ce que je voudrais dire, c'est sur quoi nous allons nous pencher ce soir, c'est quand justement, eh bien, tout cela échappe à notre raison, et que nous prenons différents éléments en considération, et que nous ne parvenons pas, eh bien, finalement, à réaliser ce qui se passe, et qui touche principalement les pensées. La pensée de l'homme, elle peut être paisible, mais elle peut être agitée, pour différentes causes. Ou alors leurs sentiments, où nous sommes dans un charivari intérieur au niveau de notre cœur, et puis là nous ne comprenons plus rien à rien. Il semblerait que nos pensées, que nos sentiments nous emportent, et nous ne savons plus où nous en sommes rendus. Et cela finit par paralyser notre pensée, paralyser notre volonté, pardon, notre volonté. Parce que pour arrêter la machine, eh bien, on ne sait plus où se trouve finalement, eh bien, là où on peut arrêter, et comment on peut arrêter. Parce que c'est pas seulement, eh bien, quelques moments, mais c'est parfois, c'est tout le temps. Et nous avons, hélas, rencontré des gens. Parfois, eh bien, ils se trouvent aussi au milieu des enfants de Dieu, des chrétiens, qui nous parlent, qui se confient, qui disent, mais voilà, c'est une chose qui est impossible pour moi. Je suis profondément malheureux ou malheureuse parce que je n'arrive pas à maîtriser mes pensées. Et mes sentiments battent la chamade, et là, c'est véritablement quelque chose de profondément, de tellement, eh bien, impossible à contrôler. Alors aussi, curieusement, il apparaît que cette gêne intérieure, parce que c'est un malaise, on l'a dit tout à l'heure, s'accroît, et ça c'est une particularité, s'accroît au contact de l'évangile de Jésus. Je prends pour témoin ce père qui vient pour solliciter Jésus parce que son enfant est aux prises avec des crises que l'on appellerait crise d'épilepsie. au moment où Jésus rentre en contact avec cet enfant se met à avoir des convulsions, il se met à écumer, il se jette par terre, etc. C'est cette relation qu'il y a. C'est comme le gadarénien, par exemple. Hein. On voit des situations comme ça qui sont véritablement curieuses. Au contact de l'évangile, il y a une crise qui se manifeste, où il y a des pensées mauvaises qui surgissent, hein, quelquefois des pensées de haine, des pensées, toutes sortes de choses, on en reparlera d'ici quelques instants. Cela peut provoquer de l'irritation, cela peut provoquer toutes sortes de violences, la moquerie aussi, la nécessité, l'animosité intempestive, on l'appellerait peut-être par rapport au contact avec l'évangile, de l'inimitié, parce que il y a quelque chose là qui véritablement déclenche une crise d'opposition terrible. Pour certains, c'est la somnolence. Ils viennent dans les réunions et à ce moment-là, eh bien, ils s'endorment. Alors que dans d'autres situations ou autres circonstances, eh bien, ça serait tout à fait différent. D'autres parleront qu'ils sont animés de pensées impures ou de pensées blasphématoires contre Dieu. Alors, ce que je dis, ça peut vous être inconnu et ça vaut mieux. Mais quelquefois, eh bien, ce n'est pas aussi rare qu'on le pense. Et pour certains, ça provoquera des envies de fuir, de prendre la fuite. Devant ces phénomènes troublants, puisque nous avons parlé de tourments, il convient de chercher l'explication autant que cela peut nous être donné, et la libération précisément dans la parole de Dieu. La première chose, c'est que très souvent, dans ces manifestations physiques, surtout à caractère moral et psychologique, ou voire même spirituel, c'est parce que justement il y a une approche de Dieu, une approche de la parole de Dieu, et les gens, ça les renverse encore davantage. Au moment où on leur parle de Dieu, ils ont des pensées blasphématoires contre Dieu, ou des pensées de révolte, ou des pensées de toutes sortes de choses. Or, la parole de Dieu est faite pour nous délivrer. Il nous est dit dans un psaume, il envoya sa parole et il est guéri. Et quelle est la raison qui fait qu'un homme qui rentre en contact avec la parole de Dieu, libératrice, puisse avoir ce ressenti complètement contraire, d'opposition, voire de révolte, et toutes sortes de choses semblables. D'abord, si nous lisons la Bible, ou nous connaissons un peu soit peu la Bible, la parole de Dieu parle du combat qui se livre à l'intérieur des êtres. Ouais, il y a une dualité. Parce que finalement, nous sommes dans un corps qui est comme un vase, en quelque sorte, et il y a à la fois le bien et il y a le mal. Le bien dans nos sentiments, le mal dans nos sentiments, la pensée en bien, la pensée en mal. Et tout ça, ça fait partie de l'espèce humaine, de la nature. Et nous voyons que la Bible en parle très souvent de ce combat. Entre l'homme nouveau, celui qui a fait une expérience, celui qui est libéré, celui qui est affranchi, pardonné. Et puis, ces résidus de l'ancien homme, de l'homme ancien, du vieil homme, on dira plutôt. Hein. Et finalement, c'est caché à notre raison et c'est caché à nos yeux. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se disent « mais je ne sais pas ce qui m'arrive ». Je ne sais pas ce qui se provoque en moi, mais je comprends plus. Et l'enjeu, disons-le tout de suite, c'est un préambule que je fais, mais l'enjeu, c'est tout simplement notre choix. Qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons nous laisser accabler par ces attaques? Parce qu'elles ne viennent pas de nous. Je tiens à le dire. Elles peuvent trouver un terrain favorable, des dispositions de convoitise, des dispositions que le péché finalement produit à l'intérieur de nous-mêmes. Mais il y a un agent extérieur, alors il y a d'abord le monde qui est autour de nous, là c'est pareil, c'est pas toujours très respirable, mais néanmoins nous sommes dans ce monde et on ne peut pas s'en extraire. Mais il y en a un qui se joue de cela, parce que finalement le challenge qui est à gagner c'est notre choix, le choix de l'homme. Qu'est-ce que nous allons faire? Soit nous allons nous laisser accuser et nous martyriser en nous détruisant, en disant « mais c'est pas possible, pas possible que je sois comme ça, que je pense ça ». Que je ressente ça, que j'ai ces envies de ceci et cela qui sont complètement anormales. Ou alors, à ce moment-là, eh bien, nous allons vraiment prendre conscience qu'il y a une issue, qu'il y a un secours, c'est la foi en Jésus-Christ qui nous libère de toutes ces choses. et c'est une raison que nous allons, et plusieurs raisons que nous allons aborder. Je voudrais vous donner plusieurs exemples qui sont parlants par eux-mêmes, et nous allons aller les découvrir à travers quelques personnages ou quelques faits de la Bible. Très vite, je passe sur Job. Job et son histoire tourmentée. Il y a quand même 42 chapitres dans le livre de Job où il nous est parlé du tourment de Job. L'homme qui n'a jamais été autant tourmenté. Il y en a eu d'autres, naturellement, mais son histoire nous est rapportée. Il a été tourmenté physiquement, il a été tourmenté moralement, pour ne pas dire se poser de grandes questions sur le plan spirituel, si Dieu était encore son Dieu, si Dieu était encore, eh bien, un Dieu vivant. Parce que lui, il était à deux doigts de mourir. Et ça n'a pas duré un jour, mais ça durait quand même un petit bout de temps. Pourtant, c'était un homme honnête. Il nous est parlé qu'il était intègre, qu'il était droit. Et il a été attaqué d'une manière terrible, que vous retrouverez si vous lisez le chapitre 1er et le chapitre 2 du livre de Job. Et des menaces qui étaient des véritables menaces de mort, d'exterminer cet homme. Et parce qu'il servait Dieu, parce qu'il aimait Dieu. Donc, vous comprenez, ce ne sont pas seulement les gens de l'extérieur qui vivent ce genre de tourments. Ils peuvent être tourmentés, mais ça peut être d'authentiques enfants de Dieu. Moi, j'en ai souvent entendu, des gens, frères, des chrétiens qui sont venus me voir en disant, mais je ne sais pas ce qui se passe en moi, mais c'est affreux, je ne peux plus supporter. Je ne peux plus vivre cela. Les malheurs de Job sont nombreux. Il perd sa santé, il perd ses enfants, il perd cette situation qui était la sienne, il perd sa femme, et il va perdre ses amis. Ça, c'est quand même terrible. Et pourtant, il y a quelques lignes dans le livre de Job où il nous est dévoilé, comme s'il y avait un coin de voile qui était levé, sur un défi invisible et malicieux qui va porter sur Job pour le faire maudire Dieu, à travers la souffrance. Job ne sait pas ce qu'il y a. Dans sa vie d'homme, dans sa vie sentimentale, dans toute son existence, c'est sa dévotion pour Dieu, parce que c'est un homme qui aime Dieu, ça lui tombe comme ça, d'un seul coup comme l'ouragan, et ça va être dévastateur. Ça se passe dans l'invisible, et il y a de la méchanceté derrière. Le danger pour Job, le danger pour tous les hommes, quand nous sommes poussés à bout, c'est l'exaspération. Et les expirations, eh bien, ça amène les hommes à éclater, à exploser en quelque sorte à cause de la souffrance. À cause de la souffrance. Surtout quand on comprend pas. Maintenant, déjà, même quand on comprend ce qui peut nous arriver, quand on se casse une jambe, on sait très bien ce qui s'est passé, on connaît les raisons de l'accident, et déjà, c'est difficile à vivre. Mais quand vous êtes dans l'ignorance, et que vous faites tout pour dire, mais moi, je veux avoir une vie correcte, je veux être propre, je veux être juste, parce que le but de l'exaspération, eh bien, c'est de nous amener à abandonner, à nous résigner et de dire, eh bien, alors, c'est plus la peine, ça ne sert plus à rien. C'est d'ailleurs ce qu'avait conseillé la femme de Job, le voyant souffrir son mari, en disant, eh bien, maintenant, écoute, tu maudis Dieu et tu meurs. Assez vite expédié, hein. Madame Job avait quand même quelques sentiments qui n'étaient peut-être pas tout à fait au point, hein, par rapport à son mari. J'en arrive à Paul. Paul, qui est un grand homme du Nouveau Testament, apôtre, c'est un homme qui est également fidèle à Dieu. On le sait, la manière dont il s'est converti, la manière dont il a été convaincu que Jésus-Christ, eh bien, est son sauveur, à travers toute l'histoire qui nous est rapportée, particulièrement dans le livre des Actes des Apôtres. Et Job est l'illustration du prix à payer pour servir Dieu. Ça s'adresse encore à des chrétiens. Il parlera que jour et nuit, il est tourmenté du souci que lui donnent les églises. Ouais, c'était pas une petite affaire. Hein. Le prix que coûte de vouloir s'engager pour Dieu, de vivre pour Dieu, les défis qui sont lancés, tant dans notre vie physique, à travers les défis de maladie, ou à travers notre équilibre psychologique ou moral, ou spirituel. En ce qui concerne Paul, il a connu une douleur physique, je dis bien physique, permanente. Il parlera d'une écharde qui a été mise dans sa chair. Vous savez ce que c'est qu'une écharde? Vous savez ce petit morceau de bois là qui rentre, hein, hein, comme une épine, voilà, c'est ça une écharde, et que vous n'arrivez pas à enlever, qui est agaçant au possible, parce que c'est peut-être pas ça ce qui va nous faire crier de douleur, mais c'est insupportable. C'est insupportable. Il parlera d'une écharde, qui a été enfoncée dans sa chair. Alors les raisons peuvent être évoquées, puisqu'il nous dit qu'il avait un problème au niveau de ses yeux. Alors, ça devait être aussi quelque chose de très très difficile à vivre. Les raisons, eh bien, c'était précisément, et Dieu va lui dire, mais c'est pour te préserver de l'orgueil, vous vous rendez compte? Ouais, préserver de l'orgueil. Et vous savez pourquoi? Parce que Paul a été un homme qui a reçu énormément de révélations de la part de Dieu. Ouais, plus qu'un autre peut-être. En tous les cas, dans le Nouveau Testament, il fait figure d'un homme qui a été comblé des dons de Dieu. Et on sait très bien que dans 2 Corinthiens, il en parle ouvertement. Et Dieu va lui dire, mais tu as ça en ta vie. Tu es retenu par ce fil qui est un fil de souffrance. Non pas que ce Dieu se plaise à nous faire souffrir, mais pour nous retenir de la chute, pour nous empêcher de sombrer, pour nous empêcher de retourner là d'où nous sommes venus. Parce que si Dieu nous a sauvés, c'est que non seulement il veut notre salut éternel, mais comme Paul avait une mission, comme chacun d'entre nous, nous avons une mission, il ne veut pas nous perdre. Il ne nous a pas appelés pour nous perdre. Et pour certains, eh bien, il peut y avoir une écharde dans leur chair. Ils vont porter peut-être toute leur vie, ou à un moment de leur vie, mais ça va les garder, parce qu'ils ne vont pas aller trop loin. Ils seront obligés d'être canalisés, c'est une chose difficile à comprendre, il faut bien le dire. Quelquefois, dans certains cas, il n'y a pas de guérison, parce que c'est comme ça. Voilà, ce n'est pas parce que ça va empêcher les gens ça va pas empêcher les gens de vivre, mais à côté de ça, ils vont développer une vie spirituelle, une relation avec Dieu, parce qu'ils ont tellement besoin de Dieu. Ouais. Ils vont être vraiment dépendants de Dieu, parce que si vous avez toute la liberté, et vous savez que la liberté peut être un danger, hein. On le voit, on le sait, ça. Alors, la cause cachée nous est révélée, Paul parlera d'un ange, de Satan. Donc, il y a une nomination, de là d'un être pensant et intelligent, d'un ange de Satan, qui lui a envoyé une écharpe dans la chair pour lui souffleter. Et bien là, pour le tenir, en quelque sorte. Et Paul vivra dans l'épuisement, d'une certaine mesure, dans l'empêchement de vivre dans la liberté qu'il proclamait aux autres. On a connu des pasteurs, nous on en connaissait un, qui a été un homme qui a eu vraiment le don de la guérison divine. Il priait pour les malades et les malades étaient guéris. Et lui a été malade toute sa vie. Ouais. Terrible, hein? Ah oui. Et des dizaines et des centaines de gens étaient guéris par son ministère. Mais lui, il était malade toute sa vie. Allez comprendre. C'est une source de tourment aussi. Et il a vécu naturellement. On pourrait parler de la volonté permissive de Dieu, où Dieu permet certaines choses dans notre vie. Ouais. On a tous quelque chose d'une manière ou d'une autre. C'est toujours quelque chose. Moi, je ne sais pas si vous avez, si votre vie est comme un grand et un long fleuve tranquille, où vous n'avez aucun souci, que même quand il pleut, comme ces temps derniers, vous voyez toujours le soleil à travers les nuages, aucune difficulté d'aucune sorte. Ben, c'est peut-être pas ce que nous voyons, ce que nous vivons, mais c'est pourtant cela. On appelle ça la volonté permissive. C'est pas quelque chose, quelquefois ce ne sont pas des choses graves, ce ne sont pas des choses qui sont dramatiques, ce ne sont pas des choses qui font hurler de douleur, mais c'est des choses qui sont là à l'état chronique, ou qui viennent de temps à autre comme ça pour nous rappeler que nous avons besoin de nous souvenir que Dieu est là. Et à chaque fois que nous prenons conscience de cela, eh bien, voilà, le Seigneur vient à notre aide. Pour finir, Dieu lui dira à Paul, « Ma grâce te suffit. » C'est-à-dire, tu vis par la foi avec ce que tu as, et moi je te conduirai. Tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas par quel chemin je vais te conduire, mais ma grâce te suffit. Fais-moi confiance. Fais-moi foi, tout simplement. Alors, ça c'est les deux premiers cas. On a parlé de Job, on a parlé de Paul. On peut parler également de ces sources de tourments qui sont liées à la pollution et à l'environnement mauvais. Oui, c'est le cas de Lot. Alors Lot, c'est véritablement l'homme qui vivait, qui s'est mis lui-même, parce qu'il s'est mis lui-même, dans une situation de grande difficulté, et qui a, quelque part, qui est sorti d'un contexte où il était bien, mais lui pensait qu'il n'était pas bien, comme le fils prodigue, Et il est descendu donc dans une autre situation où là, il a été vraiment mal. L'environnement mauvais dans lequel on peut se trouver. Il pourrait peut-être ressembler un petit peu au monde dans lequel on est, où on respire pas le grand air, hein, sur le plan moral en tous les cas. Eh bien, c'est Pierre, l'apôtre Pierre, qui nous parle de Lot. Il dira ceci, que Dieu a délivré le juste Lot, c'est son nom Lot, hein, qui était profondément attristé de la conduite de ses hommes, sans frein, car il tourmentait journellement son âme à cause de ce qu'il voyait et de ce qu'il entendait de leurs œuvres criminelles. C'était l'histoire de Sodome et Gomorre. Alors, je ne sais pas si un chrétien aujourd'hui peut se trouver comme un poisson dans l'eau, dans le monde dans lequel nous sommes, mais quelquefois, c'est pas toujours évident, hein. Quand on entend parler de violence, de sang, de guerre, d'immoralité, de déliquescence, de dissolution, j'en passe et des meilleurs, je crois que c'est quand même pas l'endroit idéal, en tous les cas, pour les chrétiens que nous sommes, pour dire qu'est-ce que le monde est beau, hein, c'est le paradis sur terre. Mais on n'a pas besoin d'être chrétien pour ça, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, et qui, quelque part, eh bien, éprouvent la même chose, hein. Ils sont outrés, sans croire forcément en Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Quand le monde et l'atmosphère ambiant rend la vie insupportable et peut tourmenter nos sentiments, nos pensées, notre cœur à travers toutes sortes d'agissements, entre autres la convoitise et les tentations, on peut parler d'un climat moral irrespirable. Ouais. Et il y a des gens qui ont du mal à vivre, ça c'est sûr. À travers, nous l'avons dit, les violences, l'agressivité verbale, quand elle n'est pas directement physique, on l'a vu hein, malheureusement ces derniers jours, hein. À l'injustice qu'il faut supporter dans ce monde, sans rien dire, même peut-être devant les tribunaux, même si on n'a rien fait être condamné, ça peut arriver également. À travers le mensonge, à travers l'immoralité, les dégradations, les dégradations, la dépravation, les vices contre nature. C'est là où nous avons besoin de l'oxygène. Hein. Alors il y a des gens qui ne supportent pas toutes ces choses sans être troublés profondément. Et ils se disent, mais dans quel monde? Il y a des gens qui sont complètement dégoûtés. Hein. Il y a peut-être de quoi naturellement. Par tout ce qui se passe aujourd'hui, et puis l'information est là pour en rajouter. Hein, elle vient, mais alors, à flot, cette information. Alors, il y a des âmes sensibles, des âmes qui sont troublées parce que ils entendent ou parce qu'ils voient de choquant, et ça choque leur conscience. Je dis, c'est pas possible. Il nous est parlé de Lot qui était profondément attristé par les choses qu'il voyait, qu'il entendait tous les jours dans la ville de Sodome et Gomorre. Quelle relation pouvons-nous faire avec notre monde, dans la violence et tout le reste? Oui, c'est ce qu'on appelle une intoxication. Et cette intoxication, elle n'est pas brutale. Elle se fait au fur et à mesure. Elle se fait sans que nous nous en prenions garde. Nous nous laissons quelque part empoisonner. L'air est vicié. Et puis, quelque part, ou dans certains cas, on ne voit pas tout de suite les causes fatales, ou la violence, ou la méchanceté. Parce que c'est dilué, comprenez, ça vient au fur et à mesure comme ça. Vous savez, quand on est dans un endroit qui est profondément malsain, où il y a des mauvaises odeurs, au bout d'un certain temps, on s'y habitue. Hein. Quand on n'a pas le choix d'y rester, naturellement, on doit le quitter. Au bout d'un certain temps, eh bien, c'est ça. La Bible nous parle de cela par rapport au monde, et elle nous dit que la puissance... Il y a un prince de la puissance de l'air qui agit. Voilà. Et qui amène le monde dans un esprit moutonnier. C'est-à-dire que finalement, on finit par dire c'est mal. Puis au bout d'un certain temps, parce que l'infection est là, on finit par tellement s'y accoutumer en disant, bah oui, mais puisque tout le monde le fait, ou tout le monde le pense, ou tout le monde le croit, alors on voit plus trop la différence. Hein. On voit plus trop la différence. C'est une chose d'une gravité particulière. Et la solution est une solution qui doit nous ramener à la paix et qui doit ramener notre conscience à la réalité. Parce que on ne peut pas vivre sans être dans ce monde. Jésus le dira, hein. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal qui est dans le monde. Ça, c'est pas une chose qui est facile. Et on comprend qu'il y a beaucoup d'hommes, qu'il y a particulièrement des chrétiens, des enfants de Dieu, qui ont du mal à s'accoutumer à ça, parce que quand nous respirons l'air frais de la parole de Dieu qui nous entretient tous les jours, et puis que nous sommes confrontés dans la vie professionnelle et dans notre environnement avec toutes ces choses, quelle déchirure au niveau sentiment et au niveau de nos pensées. Parce que quelquefois, nous pouvons même en rêver tellement c'est imprégnant. Oui, Jésus nous a prévenu de tout ça. Alors ceci nous amène à une leçon que Jésus nous donne, particulièrement une autre cause de perturbation à caractère essentiellement moral, qui devient une obsession de la pensée ou de la conscience. Ce texte, nous l'avons dans l'évangile de Marc, au chapitre 7, je vous le restitue comme ça de mémoire, on ne va pas aller le retrouver, mais il nous est dit qu'à un moment donné, Jésus nous dit, mais ce n'est pas de l'extérieur que le mal vient, mais c'est de l'intérieur des cœurs empoisonnés, des cœurs qui ont été viciés. Par-delà le temps, et puis par-delà l'environnement, naturellement. Et il dira, mais regardez tout ce qui est violence, tout ce qui est ceci et cela. Et ça, c'est une perturbation ô combien terrible. Jésus nous en parle. Il y a nécessité d'une purification du cœur et des pensées les plus intimes. Et il n'y a que Dieu, et Jésus nous le dit dans cet évangile, que c'est Dieu qui libère par le fait que, à ce moment-là, nous venons tels que nous sommes, et que nous nous abandonnons à l'action de son Saint-Esprit, par l'obéissance et la soumission à sa volonté, et de pouvoir nous défendre de toutes ces choses. Parce que ce qui est à l'extérieur, on l'a dit il y a un instant, c'était le cas de ce que, Lot voyait à l'extérieur, mais comme je vous ai dit que finalement ça rentre à l'intérieur, ben, ça finit par nous imprégner. Et ce qui est sale, on finit par penser que ce n'est plus sale du tout. Parce qu'on a perdu nos réactions. Vous savez, il y a un mal qui a fait déjà, j'entendais ça hier, 28 millions de morts depuis les années 80, c'est le sida. Vous avez entendu 28 millions de morts sur la planète. Non mais, ça a fait chanceler, hein. C'est terrible une chose pareille. Et cette maladie a pour principe, pour cause, bon, on la connaît, mais pour principe d'enlever les défenses immunitaires des hommes. Et devant quelques maladies que ce soit, même quelquefois les plus bénignes, eh bien, puisqu'il n'y a plus de défense, Dieu nous a donné des défenses, des antitoxines, des armes intérieures de notre corps, et comme il n'y a plus de défense, eh bien, la plus petite même des maladies peut emporter le malade. Eh bien, c'est dans cette société dans laquelle on vit. Quand les défenses sont complètement effondrées, et nous voyons que c'est quelque chose qui est assez préoccupant. Et Jésus nous dit, il y a aussi un secours à ce moment-là. C'est pas la trithérapie, c'est la foi en lui. Ouais. Parce qu'il est venu nous parler du bien, il est venu nous parler du mal, de ses méfaits, de sa dévastation, de tout ce qu'il peut y avoir autour de cette question. Et c'est terrible. Ouais, Jésus est venu nous dire tout cela. Et il nous a pas laissé sans remède. Il sait que l'homme est malade et qu'il a besoin d'un traitement. Et ce traitement, il est unique. Et il faut l'accepter. Ou plier à sa volonté, tout simplement. Alors on pourra bien sûr faire toutes sortes de gesticulations, de toutes sortes de spéculations sur ceci et cela. Il n'y a qu'une solution pour pouvoir être purifié dans nos pensées, dans notre cœur. C'est simplement, la Bible nous dit, c'est parce que Jésus est mort à notre place. Nul autre ne pouvait payer, nul autre ne pouvait être guéri autrement. Et ça, c'est une affaire de foi. C'est pas de le mériter, c'est pas de dire, eh bien Seigneur, il y a ceci et cela, et tu me dois ceci et cela. On ne doit rien, Dieu ne doit rien en tous les cas. Mais c'est un acte, tout simplement, eh bien, c'est un acte de confiance et que de nous laisser éclairer par la lumière de Christ. Et sa parole est là pour cela. Il y a une autre situation qui est aussi fréquente, qui peut polluer notre vie, qui peut nous empoisonner, qui peut nous amener à mourir, et vraiment réellement, c'est le ressentiment, la haine, les mauvais sentiments, à la fois dans notre cœur, siège du sentiment et de nos pensées qui n'arrivent pas à se défaire, finalement d'un état d'esprit de vengeance ou de revanche ou d'inimitié contre quelqu'un, à tort ou à raison. Quelquefois, eh bien, c'est peut-être à raison, mais nous avons tort. Néanmoins, nous avons quand même tort, s'il y a d'autres moyens. Le ressentiment qui trouble la vie des hommes et qui les pollue au possible. Souvent, ça vient avec la jalousie. Vous connaissez l'histoire de Caïn et d'Abel? Ils ont reçu la même chose tous les deux. Puis voilà que l'un va apporter un sacrifice. L'autre va apporter un sacrifice. Et puis, Caïn va regarder le sacrifice de son frère. Il s'occupe des affaires qu'il ne regarde pas. Vous comprenez? Il faut faire attention de ne pas s'occuper des affaires des autres. Hein. Parce que ça peut dégénérer. Hein. Et à ce moment-là, eh bien, il s'aperçoit que, quelque part, il voit que le sacrifice d'Abel est agréable devant Dieu. Le sien, un peu moins. Parce que l'état de son cœur est mauvais. Alors qu'est-ce qu'il va faire pour se débarrasser de celui qui le gêne? C'est son frère. Il va le tuer. Voilà. Tout simplement. Le ressentiment dans nos cœurs, qui pollue nos pensées, qui pollue profondément, à tel point que la médecine identifie certaines maladies qui ont des répercussions profondes sur notre état physique. Vous savez, ce genre de maladies que l'on appelle les maladies psychosomatiques, qui ont une raison, c'est pas un dysfonctionnement corporel ou physique, c'est un dysfonctionnement de l'âme qui a des répercussions sur le physique. Mais ça, c'est très connu, hein. Alors, faut aller chercher non pas, eh bien, là, dans l'extérieur, mais faut aller chercher au tréfonds des âmes, dans les vies, dans le passé, dans l'histoire, peut-être déjà. Alors, le ressentiment, la haine, eh bien, sont quelque chose de profondément mauvais. Et il y a l'apôtre Paul qui dira, cette parole, il dira, parce que c'est un avertissement, il ne faut pas l'oublier, il dira ceci, par votre colère, ne donnez pas accès au diable. Ah oui, la fureur, la colère, cette tempête qui déferle et qui est capable d'aller jusqu'au sang. Et les gens qui n'arrivent pas à se maîtriser. Et ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver parfois même à des chrétiens. Mais Jésus, Paul nous dit plutôt, par votre colère ne donnez pas accès au diable parce qu'il vous attend. Il est à la porte. Vous vous souvenez de l'histoire de Caïn? Ce Caïn n'a pas surmonté, finalement. Dieu lui avait dit, mais surmonte le mal, parce que le mal se cache à ta porte, le péché se couche à ta porte. Alors, quand on donne libre accès au péché, au mal, alors à ce moment-là, on va être un instrument, hein, entre les mains de celui qui veut nous détruire. Je dirais que l'emportement est une brèche de choix pour troubler notre vie et troubler celle des autres. Hein. Et quand on a du ressentiment, c'est pas seulement aux autres que l'on fait du mal. Par notre violence, par nos paroles, par nos gestes, par notre brutalité, par toutes sortes de choses qui sont pensées, quelquefois bien préconçues, distillées et raffinées. Mais faut pas oublier que celui qui est dans cet état, il va se faire du mal à lui-même. S'il détruit, il sera détruit lui-même. Parce que c'est le même principe. C'est la même chose, hein. Il va englober les deux. Alors, quand il s'agit de haine, quand il s'agit d'une vengeance, du dépit, de la contrariété, de la susceptibilité, parce que ça paraît pas grand-chose, mais la susceptibilité, ça peut nous emmener loin. Et que ça heurte tout simplement notre volonté ou nos sentiments, c'est la pensée tout entière qui est captive. Elle est captive de mauvaises émotions, ou des émotions vont devenir mauvaises, on peut le dire de cette manière. Et à ce moment-là, il faut apprendre à maîtriser tout cela. Et c'est pas forcément facile, compte tenu peut-être de la gravité des blessures que nous avons reçues. Mais pourtant, nous ne sommes pas seuls dans cette affaire. Qu'est-ce que vous pensez quand Jésus a été crucifié et qu'il a eu des clous dans les mains, qu'on a craché sur lui, qu'on l'a dépouillé, qu'on l'a mis à nu pratiquement, qu'on a dit toutes sortes d'infamies, qu'on a appelé dans la Bible ignominie. Il nous est dit, dans un autre texte de la Bible, que devant tous ses adversaires, devant tous ses détracteurs, devant tous ces gens infâmes qui, quelque temps avant, l'avait acclamé et maintenant crié, mais il faut qu'il soit crucifié, il faut qu'il meure. Il nous a dit qu'il n'a pas ouvert la bouche. Il a été comme une brebis que l'on mène à la boucherie. Preuve que Jésus a pris une victoire totale et complète sur la méchanceté. Il n'est pas méchant. Il ne veut pas avoir de sentiment de méchanceté. Et sur la méchanceté humaine. Parce que la méchanceté humaine, c'est une provocation. C'est pour nous faire sortir, finalement, et bien de nos réserves. Alors, à ce moment-là, il faut apprendre la maîtrise, à maîtriser nos impulsions et nos instincts. Parce que l'homme est aussi instinct naturel. Avant que ce soit eux qui nous dominent, et que nous en arrivions à faire des choses, ou à dire des choses, ou à engager des situations qui vont être irréversibles. Vous savez, l'histoire de la guerre, hein, c'est ça, hein, c'est toujours la question. C'est pas le petit soldat qui va au combat, lui, il est pour rien dans cette affaire. Lui, il va être transformé en chair en canon pour au plaisir de tous ces grands. Mais on sait très bien que derrière tout cela, il y a quelque chose d'abominable. Qu'est-ce que c'est la maîtrise? Dans le livre des Proverbes, il nous est dit comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Et quand on a perdu la maîtrise, alors à ce moment-là, ça peut aller très très loin. L'homme est capable de faire des choses abominables et terribles. Il est fait peut-être dans une violence spontanée, immédiate, brusque, mais il est capable de distiller aussi sa violence. Vous savez, l'histoire des camps de concentration, hein. Si c'est pas de la violence, on va me dire autre chose, hein. On va me l'apprendre. Mais ça avait été conçu, ça avait été nourri, ça avait été préparé, ça avait été, nous pourrions dire, mis en théorie avant la pratique. Pensez, vous vous rendez compte, je crois qu'industrialisé. Donc, et au départ, ça ne semblait pas comme ça. On envoyait les gens tout simplement prendre des vacances là, en Pologne et autre part. C'est ce qu'on a fait croire au son de la musique classique, parce que c'est comme ça que les pauvres allaient dans les crématoires. Ça, c'est le côté le plus sordide. Moi, je dis, c'est diabolique, ça. Ouais. La réconciliation et le pardon est nécessaire. Et je termine. Libération de Dieu sur nos pensées. Libération de Dieu sur nos sentiments. Libération de Dieu sur notre conscience. Beaucoup de gens souffrent de cela. Vous savez, si le monde est si malade, s'il y a tant d'hôpitaux qui soignent les corps, mais il y a aussi des hôpitaux qui soignent les âmes, soignent les êtres psychiques, le mental des gens, et que les gens sont déboussolés. Ouais. Dans l'environnement, dans la pollution, dans les blessures, dans leur passé, dans leur histoire. C'est terrible, hein? C'est terrible. Alors il y a assurément une libération de tout ça. D'abord, la Bible nous dit que Dieu nous connaît. Ça, c'est une chose. Il n'y a rien à cacher. Et qu'il sait ce que nous pensons. Et quelquefois, nous avons horreur, nous les chrétiens, quand nous avons une mauvaise pensée en disant « Mais moi, je pense, mais Seigneur, t'as vu que je pense mal. Alors pardonne-moi. » Bien sûr. C'est un réflexe normal. Que s'il sait que nous, ce que nous pensons, hein, qu'est-ce que nous pouvons lui cacher? Et quelquefois, nous sommes malheureux de cela. Nous sommes d'autant plus malheureux. Il y a des gens qui se délectent de mal penser, d'avoir des pensées, tout ce que vous voudrez dans tous les domaines. Ah, ça ne les dérange pas. Et vous avez remarqué, une chose, c'est que, avant que nous nous convertissions, nous pouvions penser beaucoup de choses qui ne nous dérangeaient pas. Et à partir du moment où il y a une vie nouvelle en nous, alors nous pensons des choses qui nous font véritablement, là maintenant ça nous dérange, hein. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont mauvaises, que nous pouvons penser. Parce que, qu'est-ce que nous pouvons faire, hein? Il y a des gens qui se tourmentent avec ça, ils se disent. Il y a une petite anecdote qui nous dit que, on n'empêchera jamais les pensées de venir sur notre tête. Mais on peut empêcher un oiseau de faire son nid dans notre tête, comprenez? C'est-à-dire que là, nous avons besoin d'une délivrance qui va plus loin que nos efforts. Et c'est quelque chose qui, quelquefois, nous rend profondément malheureux. Mais il y a deux aspects de ces pensées qui sont tourmentées. Parce que nous sommes chrétiens, ou parce que nous voulons faire le bien, et que nous aspirons à des choses pures, à des choses nobles, que nous n'en voulons pas à Dieu et que ces pensées blasphématoires, hein, ou sacrilèges sont un puits de souffrance pour un enfant de Dieu. Mais le Seigneur sait que nous ne voulons pas. Mais le diable sait que finalement il nous envoie tout ça pour que nous finissions à nous décourager, à baisser les bras et accepter la chose. Et là, à ce moment-là, il va nous tourmenter à mort par ce qu'on appelle la culpabilité. Et c'est une fausse culpabilité. C'est pas vous, c'est le diable. Je ne peux pas me mettre tout sur le dos. Mais c'est lui. Il nous est bien dit dans la Bible qu'il est l'accusateur des enfants de Dieu, dans le livre de l'Apocalypse. Et il nous tourmente. Et il y va. Hein. Et plus nous essayons de nous défendre, plus il y va encore. Alors donc, on ne peut pas se défendre. Il n'y a qu'une chose, c'est de crier à Dieu, et c'est lui qui va nous délivrer. Vous y croyez, ça? Ouais. Et vous savez, beaucoup de gens qui arrivent dans l'Église, des nouveaux, que l'on appelle des nouveaux, ceux qui nous rejoignent, qui ont entendu l'Évangile, quelquefois sont terriblement tourmentés. Hein. Ils partagent, ils ont prié, et puis bon, à un moment donné, ça s'en va. Et ça les rend profondément malheureux. Et ça ne vient pas d'eux. C'est le diable qui essaie de les matraquer pour dire, est-ce qu'on n'avait pas ça auparavant? Et c'est à partir du moment où je me suis approché du Seigneur que j'ai eu ce genre de choses. Alors, je crois que c'est David qui dira ça. Si c'est pas lui, c'est quelqu'un qui est peut-être un chrétien. Il dira, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu pénètres de loin ma pensée. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mes pensées. Éprouve-moi. » Et le Seigneur, eh bien, va nous envoyer sa parole, et avec sa parole, il va nous guérir. Il va peut-être pas le faire d'une manière instantanée, mais il va nous guérir. Dans le temps, nous allons guérir, dans nos pensées mauvaises, dans notre cœur, nos sentiments, toutes sortes de choses. Oui. Dans Romains, il nous est dit que la loi de Dieu est écrite dans le cœur des hommes, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant et se défendant tour à tour. Et le Seigneur est plus grand que notre cœur. Vous connaissez, c'est écrit ça aussi. Et que le Seigneur nous délivre. Ouais. Il y a un prix à vivre pour Dieu. Il y a un prix à servir Dieu. J'ai eu l'occasion de parler dernièrement avec une jeune femme qui vit des moments très difficiles. Il n'y a rien qui pourrait présager. Elle est nouvellement engagée pour le Seigneur. Et elle est là dans un état de déprime, de dépression. Parce qu'elle a des mauvaises pensées qu'elle n'avait pas avant. Elle dit, mais ma conscience est... J'ai des pensées de blasphème contre le Seigneur, etc. Alors on la calme. On essaie de l'apaiser. Parce qu'on y est passé aussi. Et on sait comment ça se passe. Vous savez, si on raconte, quand on prêche l'Évangile, hein, c'est pas de la théorie. C'est aussi quelque chose que nous avons vécu. Et à un moment donné, bien, le Seigneur pose sa main. Et il nous délivre et il nous rend notre paix et notre bonheur. Le calme, oui. Il y a ceux qui se culpabilisent à mort et toujours, continuellement. Il y a ceux qui ne se remettront jamais en cause. Et là, ils ne sont pas convertis, ceux-là. C'est quand on est vraiment converti qu'on appartient au Seigneur. C'est des choses que nous pouvons aussi porter. Alors, les moyens de délivrance en quelques mots, ce que je vais terminer. Dans Éphésiens, au chapitre 6, il est dit ceci. Tenez donc ferme. Ouais. N'essayez pas d'éteindre l'incendie dans vos cœurs et dans vos pensées avec de l'essence, parce que vous savez ce que ça va faire. Il y a un feu. Et si vous mettez de l'essence, ça va s'enflammer encore davantage. Mais laissez au Seigneur dominer, demandez-lui, priez pour qu'il vienne et que son Saint-Esprit vous envahisse complètement et qu'il recouvre vos pensées, qu'il recouvre vos cœurs, vos sentiments. Et à ce moment-là, vous verrez qu'il y aura une différence. Ne vous battez pas vous-même parce que le diable va vous amener sur un chemin d'épuisement et un chemin où vous en finirez par dire « Je n'y arriverai jamais, donc Dieu n'existe pas. » C'est le but. C'était l'histoire de Job. Et pourtant, Job a tenu le coup. Ouais. Il nous a dit qu'il n'a pas péché une seule fois par ses lèvres. Ouais. Alors, ne vous découragez pas. Tenez donc ferme contre les ruses du diable. Prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le bouclier de la foi, c'est de dire, je confesse que Jésus est mon sauveur, que Jésus est victorieux, et que je suis victorieux avec lui. Cet après-midi, j'avais une jeune femme, également une jeune fille plutôt, qui est hospitalisée, qui traverse un moment de dépression. Et elle me disait, parce qu'elle passe un sacré moment, hein, et elle me disait, chaque fois que j'essaie, c'est bouffé d'enfer. Dans mon cœur, dans ma pensée, ça me recouvre comme une vague. Je suis complètement anéanti, je ne sais plus où j'en suis. Je veux mourir. Elle me disait néanmoins, moi je pense à Jésus et je lui dis que Jésus est mon sauveur, elle a raison. Ouais. Parce que c'est ça le bouclier de la foi. C'est pas de la magie. Ce n'est pas de la superstition. C'est une réalité que Jésus est venu nous délivrer des œuvres mauvaises du diable. Et il se sert de nos sentiments, il se sert de nos pensées. Il se sert de notre conscience pour nous triturer, nous mettre en miettes, nous pilonner, nous mettre en petits morceaux. Mais nous ne voulons pas céder. Prenez le casque. Le casque, c'est la tête que l'on met. Vous savez, c'est cet instrument que l'on met sur la tête des soldats. Et c'est notre tête qui a besoin d'être protégée. Parce que dans la tête, il y a la pensée. Cette pensée, sacrée pensée qu'on n'arrive pas à arrêter. C'est terrible. Mais le Seigneur, lui, est capable de nous changer et de nous transformer. Prenez le casque. Voilà. Le casque du salut, l'assurance. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Saisissez la parole de Dieu, mais lisez-la non pas d'une manière légaliste, parce que ça va vous faire un mal terrible. Parce que c'est ça. Le diable va vous faire comprendre les choses d'une façon fausse, tout en servant de la parole de Dieu. Mais prenez la parole de Dieu en la saisissant dans la grâce et l'amour de Dieu. Et ça changera tout. Vous verrez que un verset ne ressemblera pas d'une manière, si vous le considérez comme légaliste ou si vous le considérez dans la grâce. Parce que le diable est rusé, vous savez. Il est capable de trafiquer, il est capable de manipuler, de dénaturer, de déformer même la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait au désert avec Jésus? Mais Jésus n'est pas tombé dans le piège. Je termine par une citation de Pierre, 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Veillez, votre adversaire le diable rôde, comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Vous êtes enfant de Dieu? Vous connaissez le Seigneur? Ben vous avez un ennemi maintenant. Ouais. Vous savez? Vous avez un ennemi? Vous pouvez dire, moi je suis bien avec tout le monde. Ben, si vous êtes bien avec tout le monde entier, c'est très bien. Mais vous avez quand même un ennemi. Et c'est pas un ennemi humain, hein. Un être pensant, intelligent, qui veut votre peau, qui veut votre tête, et qui veut vous faire renier la foi que vous avez confessée en Jésus. Cherchant qui il dévorera, résistez-lui avec une foi ferme. Il ne s'agit pas seulement de la foi, mais il s'agit de la fermeté de la foi. Et si vous demandez à Dieu qu'il vous donne la fermeté dans votre foi, il vous la donnera. C'est normal. Donne-moi une foi assise, une foi fondée sur toi, Seigneur. Parce que si vous savez, quand on demande quelque chose à Dieu et que nous le voulons, il va nous le donner. Hein. Surtout ça. Surtout ça. Résistez-lui avec une foi ferme. Et vous connaissez la suite? Dites-moi. Et il fuira loin de vous. Voilà, vous avez gagné. Vous avez la victoire. Et à un moment donné, vous verrez, parce que je dois aussi le dire dans la guérison, le processus de guérison, un jour vous verrez, vous avez été tourmenté jour et nuit. Vous avez été malade dans votre cœur par des sentiments tellement contradictoires et tellement mauvais, ça vous a mis par terre, mais vous avez pris quand même la victoire. Et un jour, vous allez même plus vous apercevoir que vous pensez en bien, que vous pensez en mal, pardon. Et vous allez dire, mais où est ce temps? Alors vous n'allez pas le regretter, hein. Mais où est ce temps? C'est que Dieu vous a remis au large. Et vous verrez que l'œuvre de Dieu, elle n'est pas forcément quelquefois extraordinaire. Elle rentre dans l'ordinaire de votre vie, et puis vous vous trouverez en paix, vous vous trouverez en confiance, toutes ces pensées, tous ces ressentiments contre celui-ci, il aura complètement disparu. Vous pouvez vous retrouver avec des gens qui vous ont fait du mal, vous n'aurez même plus envie de penser mal, de dire bon, c'est fini, c'est terminé, le pardon de Dieu sera passé, et vous aurez aussi accordé le pardon aussi aux autres, et vous ne souffrirez plus. Il fuira loin de vous, parce qu'il aura perdu la partie. Et quand c'est comme ça, il n'est pas prêt de revenir, hein, parce que vous avez été plus fort que lui. Et votre victoire, vous l'avez prise en Jésus-Christ, tout simplement. C'est la victoire de Christ que vous avez prise. Alors, cette dernière parole, Jésus nous dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Moi, je voudrais vous dire que ça fait plus de 2000 ans que les choses ont été liées dans la terre. On les croit ou on les croit pas. Si on les croit pas, on reste dans notre état. Si on les croit, à ce moment-là, c'est la victoire pour chacun d'entre nous. Ouais. Tout ce que vous lirez au nom de Jésus, eh bien, sera lié, parce que c'est déjà lié dans le ciel, et ça sera lié sur la terre. Alors, est-ce que nous voulons engager notre volonté? Petite volonté. Volonté si fragile, mais une volonté qui s'abandonne à la volonté de Dieu, et à la victoire que Jésus a remportée. Et le pire, serait de nous laisser tout simplement de vivre dans la passivité en disant « je n'y peux rien, je suis complètement anéanti, ben je veux rester comme ça ». C'est de la résignation. Ne vous résignez jamais, parce que Dieu ne se résigne jamais de délivrer, de guérir et de nous sauver. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce. On va prier quelques instants si vous voulez bien. Merci. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que ta parole, elle est incisive, elle est pénétrante. Elle est efficace, elle est opérante, et nous croyons qu'il y a tant d'hommes et de femmes qui sont profondément malheureux par ce ressenti dans leurs sentiments, dans leurs pensées, dans leur cœur, dans leur conscience. Et Seigneur, dans le nom de Jésus, si l'évangile est appelé une bonne nouvelle, c'est qu'elle l'est précisément, Seigneur, dans le cas que nous avons défini ce soir. Oui, Seigneur, nous voulons te demander, Seigneur, comme David le disait hier, crée en moi un cœur pur, et un esprit bien disposé. Et nous savons, Seigneur, que c'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire, selon ton bon plaisir. Et ton bon plaisir, Seigneur, c'est que nous ayons un cœur pur. C'est que nous ayons, Seigneur, des pensées nobles, des pensées saines et saintes. que nous puissions, Seigneur, eh bien, être là véritablement, eh bien, prêts à déployer le bouclier de la foi et à porter le casque du salut afin que toutes ces choses mauvaises ne viennent pas, eh bien, empoisonner, intoxiquer, Seigneur, en effet, le siège de nos pensées, le siège de nos sentiments. Nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que tu es ma délivrance. Tu es notre délivrance. Et nous croyons que tu fais une œuvre, Seigneur, si nous te laissons toute la place d'agir en nous, Seigneur, même lorsque nous pleurons, même lorsque nous crions, lorsque nous sommes profondément tourmentés. Eh bien, Seigneur, c'est de t'inviter. Malgré que quelquefois nous nous sentons sales et nous nous sentons vraiment désagréables, ou nous nous sentons indignes de toi, eh bien, nous voulons quand même nous approcher de toi, parce que c'est toi qui purifies. Et nous voulons te rendre grâce parce que nous voulons nous rappeler, Seigneur, que tu n'es pas venu chercher des saints, que tu n'es pas venu chercher des hommes parfaits, tu n'es pas venu chercher des hommes qui étaient indemnes du mal, mais précisément le contraire. Et c'est toi, Seigneur, qui vas faire cette œuvre pour faire de nous, Seigneur, eh bien, ce que tu désires, eh bien là, à ta ressemblance, comme tu es, dans tes sentiments et dans ton caractère. Merci, Jésus, parce que tu nous bénis et nous voulons te demander, Seigneur, que tu nous apprennes. Comme David pouvait le dire, Dieu exerce mes mains au combat. Eh bien, le combat, Seigneur, il n'est pas avec nos mains, mais il est avec tout simplement notre volonté, une aspiration profonde, eh bien, à te faire confiance envers et contre tout, quoi que je ressente, ou ce que je pense, ou ce que, en effet, Père éternel, je vis, néanmoins, tu es là, et tu me remplis de ta personne, et tu me remplis de ta sainteté, tu me remplis de ta pureté. Merci, mon Dieu. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.